Horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+, au Mans, Alençon, Nogent-le-Rotrou et La Flèche. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Des dizaines de corps découverts enterrés dans la cour d'un hôpital dans le sud de la bande de Gaza, un secteur qui, selon la défense civile de Gaza, avait été la cible d'un raid israélien. Une base en Syrie de la coalition internationale anti-djihadiste a été visée par des roquettes lancées depuis l'Irak. Gérald Darmanin en déplacement au Maroc, objectif approfondir la relation entre la France et le Maroc en matière de sécurité. Le pacte asile-immigration voté récemment au Parlement européen, nous y reviendrons avec deux invités, Jean-Marc Governatori, co-président de Écologie au Centre, tête de liste aux élections européennes, et François Demaison, président de l'association Welcome Fontenay qui accueille et aide des réfugiés. Figure de l'antiterrorisme lors de la vague d'attentats de 2012 à 2018, François Molins est devenu en quelques années le procureur le plus connu de France. Il publie ses mémoires aux éditions Flammarion. François Molins sera l'un de nos invités. Le procès en appel de deux proches de l'auteur de l'attentat le 14 juillet 2016 à Nice s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. La réforme envisagée de l'assurance chômage, une mesure souhaitée par l'exécutif, malgré le désaccord d'une partie de la majorité présidentielle. Comment les demandeurs d'emploi accueillent-ils cette réforme à venir? Reportage dans votre journal devant France Travail à Vincennes, près de Paris. Israël poursuit ses bombardements dans la bande de Gaza. Des dizaines de corps ont été découverts enterrés samedi dans la cour d'un hôpital du sud de la bande de Gaza. L'hôpital Nasser à Khan Younes avait fait l'objet d'un raid israélien selon la défense civile de Gaza. Il s'agit de la deuxième grande fosse commune découverte en une semaine dans l'enclave palestinienne. L'artillerie et l'aviation israélienne ont par ailleurs attaqué le quartier de Zaytoun au sud-est de la ville de Gaza. Des drones ont frappé la cour d'une école dans le camp de réfugiés d'Al-Burej, dans le centre du territoire. Le premier ministre israélien a promis d'accroître la pression sur le Hamas. Des violences aussi en Cisjordanie occupée. Le camp de Nour Shams a subi un raid israélien meurtrier. 14 personnes ont été tuées en deux jours, selon le Croissant Rouge palestinien. Ce raid est intervenu dans un contexte d'intensification de la violence en Cisjordanie. Le chef du renseignement militaire israélien a présenté sa démission, démission liée à sa responsabilité de commandement dans l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël. Un drone israélien s'est écrasé au Liban après avoir été touché par des tirs. Le Hezbollah affirme l'avoir abattu alors qu'il survolait le sud du Liban. L'armée israélienne indique que l'incident fait l'objet d'une enquête. Elle affirme que son aviation a ensuite frappé le site de lancement du missile. Une base en Syrie de la coalition internationale anti-djihadiste a été visée par des roquettes lancées depuis l'Irak. La coalition indique qu'un de ses avions de combat a détruit, en territoire irakien, un lance-roquettes par autodéfense. Il s'agit de la première attaque du genre contre l'alliance militaire dirigée par Washington. Regard sur les demandeurs d'asile en France après le vote au Parlement européen du pacte sur l'asile et la migration. C'était le 10 avril dernier. L'invité de Pluriel était Jean-Marc Governatori, co-président d'écologie au Centre, tête de liste aux élections européennes. Il apporte son soutien au pacte asile et migration voté récemment. Jean-Marc Governatori.
Nous vivons dans le monde réel. Le monde réel, c'est que notre Europe et notre France sont dans l'incapacité de recevoir tout le monde. On reçoit ces pauvres gens de façon indigne. Il suffit d'aller à Calais ou à Paris pour voir des centaines de personnes qui doivent dormir sous les ponts et sous des tentes. Donc, rendre le territoire attractif, c'est criminel, parce que les gens meurent en venant. Donc, venez, vous serez mieux chez nous, c'est totalement vivre dans le monde parallèle, cher à ELV. Donc, non, le pacte migration est très très bien, il est très équilibré. Il faut surtout agir en amont, là aussi, et cesser de tuer les agricultures locales des pays africains, par exemple, hein, parce que la première cause de problème d'émigration, j'ai été délégué de SOS Sahel, c'est la mauvaise situation des agricultures locales. Donc, il faut arrêter de tuer notre agriculture avec notre agriculture subventionnée. Et avec des agricultures qui se portent bien en Afrique, vous aurez moins d'émigration.
Faut-il créer un statut de réfugié climatique ?
par-delà où va le monde, il y aura des réfugiés climatiques. Mais c'est pourquoi il est important qu'à l'échelle de l'Europe, et c'est pourquoi je suis très favorable à l'Union européenne, hein, vous savez que j'ai coutume de dire que la sécurité des Français, c'est l'Union européenne, et la souveraineté des Français, c'est l'Union européenne, puisque le monde est infesté de monstres, hein, des États-Unis omnipotents, une Chine et une Russie nucléarisée et dictatoriale, des milliardaires américains qui maîtrisent l'espace et les communications, les multinationales. Donc c'est à l'échelle de l'Europe qu'on doit agir et qu'on est fort, et aussi en termes climatiques, parce qu'il faut absolument réduire le dérèglement climatique pour réduire au maximum les réfugiés climatiques.
Jean-Marc Governatori, co-président d'Écologie au Centre, tête de liste aux élections européennes, il était l'invité de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Sur les demandeurs d'asile et l'aide qui leur est apportée, entretien à présent avec François Demaison, président de l'association Welcome Fontenay, qui accueille et aide des réfugiés.
On accueille les demandeurs d'asile qui viennent à l'OFPRA ou les gens qui les accompagnent. Donc ils peuvent aller dans ce lieu, ça leur permet d'attendre au chaud quand c'est l'hiver, hein, ça leur permet de boire quelque chose, de charger leur téléphone. Il y a une douche, donc s'ils sont arrivés par le bus de nuit, ils peuvent se doucher, voilà. Il y a une psychologue qui est là à temps plein, une psychologue de la Croix-Rouge, donc qui peut les aider, bavarder avec eux. Et alors il faut qu'ils s'inscrivent parce que il y a des normes de sécurité, on ne doit pas avoir plus de 20 personnes. Donc effectivement, comme tous les demandeurs d'asile qu'on accompagne dans les transports ou qu'on loge, ils nous sont tous adressés par une association. Donc en fait, ils trouvent sur le portail de l'application les coordonnées de l'Oasis avec un lien vers le formulaire d'inscription. Nous, au niveau de Welcome Fontenay, on ne prend jamais quelqu'un qui vient tout seul. C'est surtout par rapport à nos bénévoles. Hein. On s'est toujours engagé vis-à-vis de nos bénévoles à leur dire que les gens qu'ils allaient accompagner ou qu'ils allaient accueillir chez eux, c'était des gens qui étaient connus, c'était pas des inconnus. Donc nous, on les connaît pas, mais ils nous sont envoyés par des associations, donc les associations les connaissent. Voilà. Donc les associations connaissent l'existence de l'Oasis maintenant, et c'est eux qui inscrivent leurs demandeurs d'asile. Voilà.
Par rapport au JO, il y a beaucoup d'associations qui parlent d'un nettoyage social en Île-de-France et surtout à Paris.
C'est effectivement une préoccupation de beaucoup d'associations. Nous, on accueille des gens qui viennent une nuit. Les gens qui sont concernés, c'est les gens qui aident des personnes qui sont à la rue en région parisienne. Il y a des hôtels sociaux qui sont fermés là déjà, pour se remettre un petit peu aux normes et pour redevenir des hôtels pour touristes. Puis par rapport aussi à la vitrine que l'on veut montrer de la France au moment des Jeux Olympiques, on fera en sorte qu'on voit pas trop de gens qui traînent dans les rues. Voilà, donc il y a effectivement un tas de gens qui commencent à être envoyés en province. Nous, on n'a jamais eu de soucis, on a plutôt fait des belles rencontres. Et puis sinon, il y en a qui après nous donnent des nouvelles. Il y en a, quand ils ont le statut, ils nous le disent. On est content de le savoir. Nous, on est content de le faire. C'est quelque chose qui répond bien à cette envie d'aider les gens.
François Demaison, président de l'association Welcome Fontenay, répondait à Johan Khmed. Le ministre français de l'Intérieur est au Maroc, un déplacement selon la place Beauvau pour approfondir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité dans un contexte international instable. Au menu de ce déplacement, un entretien avec son homologue marocain ainsi qu'avec le ministre des Affaires islamiques, Ahmed Taoufik. Gérald Darmanin est accompagné des principaux directeurs généraux du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Figure de l'antiterrorisme lors de la vague d'attentats de 2012 à 2018, François Molins s'est devenu en quelques années le procureur le plus connu de France. Il publie ses mémoires aux éditions Flammarion. Objectif, faire connaître aux Français le fonctionnement de la justice. François Molins.
Il y a deux idées qui sous-tendent en fait l'écriture du livre. La première, c'est d'expliquer le vrai contenu du métier de procureur, parce que je me rends compte que la plupart de nos concitoyens ne savent pas en fait ce qu'est un procureur et ce qu'il fait. Et la seconde, c'est ce qui explique le choix du titre au nom du peuple français, c'est comme la justice est rendue au nom du peuple français, de rendre des comptes finalement de ce que j'ai fait pendant plus de 45 ans.
Voilà. Pour quelles raisons les Français n'ont plus ou ont moins confiance dans leur justice ?
Parce qu'elle a eu une crise de moyens qui s'est traduite par une aggravation des délais importantes, et ils ont un peu perdu confiance parce qu'ils estiment que la justice n'est pas assez accessible, qu'elle est trop lointaine, qu'elle est trop lente, qu'elle est trop complexe, et c'est tout ça effectivement qui qui signe cette crise de défiance.
Après votre nomination à la tête du parquet de Paris, on vous a soupçonné d'être au service du pouvoir. Quelle a été votre réaction après ces accusations dans la presse ?
J'ai été très blessé dans mon amour propre et je me suis juré que... et je me suis promis en réalité de démontrer que mon travail, j'allais le faire correctement et en toute impartialité, notamment à l'égard du pouvoir. Et c'est une idée qui ne m'a pas quitté pendant mes 7 ans parisiens, où j'ai eu à traiter beaucoup de dossiers économiques et financiers qui concernaient toutes les franges politiques, extrême droite, extrême gauche, gauche, droite, centre, et j'ai fait mon travail de la même façon à l'égard de tout le monde.
Comment on résiste aux pressions, justement ?
Ben, il suffit d'avoir un peu de colonne vertébrale, et de faire vivre l'indépendance au quotidien.
Au moment des attentats, le grand public vous a découvert. Pourquoi avez-vous pris la parole à ce moment-là, dans ces moments si dramatiques ?
Parce que j'ai compris et j'ai profondément ressenti le besoin, qui à mon avis était tout à fait légitime de nos concitoyens, de savoir ce qui se passait. Donc je pense qu'on leur devait ces informations et c'est pour ça effectivement que je me suis fixé cet objectif de communiquer tout ce qui pouvait l'être à la suite de ces attentats.
Alors dans ce livre, vous nous parlez des grands sujets qui concernent les Français d'aujourd'hui, ouais. Et notamment les violences.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé...
Oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20 € de réduction est à 39,90 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Le procès en appel de deux proches de l'auteur de l'attentat le 14 juillet 2016 à Nice s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'attaque au camion Bélier sur la promenade des Anglais avait fait 86 morts. Les deux prévenus sont les seuls des 8 accusés de première instance à avoir fait appel. Ils avaient été condamnés à 18 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. La réforme à venir de l'assurance chômage, une mesure souhaitée par l'exécutif malgré le désaccord d'une partie de la majorité présidentielle. Comment les demandeurs d'emploi accueillent-ils cette réforme à venir ? Reportage devant France Travail à Vincennes, signé Johan Khmed.
Le gouvernement le martèle. Les finances publiques vont mal. Pour pallier à la dette, le Premier ministre Gabriel Attal a avancé l'idée d'une réduction possible de la durée d'indemnité de l'allocation chômage en passant de 18 mois à 12 mois ou de demander aux salariés de travailler plus longtemps pour ouvrir leurs droits au chômage. Les syndicats comme la gauche sont vent debout contre la réforme qui divise même au sein de la majorité présidentielle. Devant France Travail, ex-Pôle emploi, les demandeurs d'emploi sont partagés entre sentiment d'injustice et besoin d'accompagnement vers un travail. Radio Orient a souhaité leur donner la parole sous couvert du respect de leur anonymat. Témoignage de deux hommes de 24 à 50 ans à la sortie de France Travail.
Aujourd'hui, il faut passer. On demande les gens, il faut qu'ils se forment. L'accès au travail, il est peut-être plus compliqué, quoi. Et moi, j'ai toujours été dans l'intérim ou l'intermittent spectacle. J'ai pas de patron. C'est moi qui dois fidéliser mes employeurs. C'est une course sur le long terme, quoi.
Des idées de taxation des plus grandes fortunes ont émergé même au sein de la majorité. Certains chômeurs se sentent stigmatisés alors qu'ils peinent à trouver un emploi stable.
Des niches fiscales, paradis fiscaux, tout ça. Il y a eu moult scandales révélés. Et voilà. Là, je pense que là, il y a de l'argent à prendre.
Plus que du côté des demandeurs d'emploi et du chômage.
Ah ouais, bien sûr. Là, c'est des scandales. Je pense que les ministres pourraient faire des effets d'annonce aussi grandioses que des réformes sur les petits gens, c'est sûr.
Malgré de longues études, des jeunes ont du mal à trouver un premier emploi, ce qui les pousse à accepter des offres plus précaires et moins bien rémunérées.
J'ai un bac plus 5 et malgré le fait d'avoir ce bac plus 5, c'est pas une garantie pour trouver un premier emploi facilement. Donc j'ai un bac plus 5 avec une spécialisation dans le marketing digital. Et donc l'idée serait forcément de me tourner vers un métier en lien avec de la création de contenu digital ou bien en lien avec de la communication, etc. Donc j'ai postulé à plusieurs offres en CDI. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Sur les fiches d'emploi, on retrouve il faut un minimum d'expérience. En général, c'est minimum 2 ans. Et à moins d'avoir fait une alternance, ben, on manque cruellement d'expérience à ce niveau-là. Je bénéficie d'un suivi avec France Travail qui me convient. Et j'ai ma part de travail à faire. Je dois pas perdre ma motivation. Et pour moi, ça me convient jusqu'à présent. Ma conseillère, elle est à l'écoute par rapport à mes requêtes. Je lui avais dit au tout début que je cherchais un CDI. Et puis, j'ai vite compris qu'il y avait des freins au niveau de ma recherche. Et résultat, je me pose des questions par rapport à ce manque d'expérience. Et j'envisage même de faire du coup une alternance, soit de 1 an, soit de 2 ans, pour justement combler ce manque. Moi, je suis pas dans une situation précaire. Je sais qu'il y en a qui sont dans des situations beaucoup, beaucoup plus difficiles que la mienne. Et c'est pour ça que je me dirais que avoir des situations au cas par cas serait l'idéal. Je sais bien que c'est difficile, parce que, il y a de l'administration et que l'administration s'est automatisée et que des fois le cas par cas, ça n'apparaît pas facile. Donc, pour moi, l'allocation chômage, en ce qui me concerne, c'est une aide non négligeable, parce que au moins ça répond à des ça permet en fait de toucher un revenu qui peut justement m'être utile pour envisager d'autres recherches de travail. À la situation actuelle de la réforme de l'allocation chômage, voilà, c'est vraiment, pour moi l'idéal serait d'avoir du cas par cas. Surtout après, si on a une femme une mère au foyer qui a eu plusieurs congés maternité de suite. Après, pour la réinsertion professionnelle, ça paraît plus difficile. Et à ce niveau-là, un suivi professionnel de la part de France Travail adapté, ça pourrait justement être bénéfique. Voilà. Pour moi, c'est du cas par cas, finalement.
Devant France Travail, ex-Pôle emploi, les demandeurs d'emploi demandent donc des mesures ciblées en fonction de la situation de chaque personne pour véritablement aider les quelques 3 millions de demandeurs d'emploi à trouver un travail stable.
Un reportage de Johan Kmed. Un appel à la grève ce lundi dans les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis. Depuis près de 2 mois, la CGT, la FSU Sud et la CNT militent pour obtenir un plan d'urgence pour l'éducation dans le département. Ils demandent notamment la création de 5000 postes d'enseignants et de 3000 postes de vie scolaire. Vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Mohamed Awad, candidat de l'Union Populaire aux élections européennes sur la liste de Manon Aubry. Une émission présentée par le Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.
Publicité. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et va à ton choc. Radio Orient.
رحمتك يا ربي مفتوح للدعاء طوق النجاة هو الحياة والمنتهى باب رحمتك يا ربي مفتوح للدعاء طوق النجاة هو الحياة والمنتهى وبقدرتك يا خالق اللي قلب كل مناهر ضاب وبقدرتك يا خالق.
الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم في باريس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
هنا إذاعة الشرق.
لتزيدنا مسكوع انبار ومن صلى عليه يتعطر لتزيدنا مسكوع انبار ومن صلى عليه يتعطر بريح النبي صلي عليه صلي
على سيد النبي ألف صلاة هديك
ألف صلاة مالك
صلي على سيد النبي ألف صلاة هديك
صلي على الهادي المختار وسيد النبي زهر الأنوار صلي على
إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق معكم مازن حمود. قال الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة يوم الاثنين إنه انتشل على الأقل 283 جثة تعود لفلسطينيين دفنتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحة مبنى مجمع ناصر الطبي بعدما تم اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، وما زال البحث جاريا عن مزيد من الجثمين في المقبرة الجماعية. إلى ذلك دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الاثنين للضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة رفح جنوب قطاع غزة وتجنب مذبحة جديدة كما قال، وكتب على الجميع أن يضغطوا على إسرائيل لمنعها من مهاجمة رفح، وأضاف مثل هذا الهجوم سيكون بمثابة مذبحة أخرى. وتتمسك إسرائيل باجتياح رفح بزعم مواجهة آخر معاقل حركة حماس رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1,400,000 نازح بالمدينة. الجيش الإسرائيلي قال يوم الاثنين إن تل أبيب تستعد لتوسيع المنطقة الإنسانية بغزة لتمتد من المواسي جنوبا وعلى امتداد الشريط الساحلي حتى مشارف نصيرات وسط القطاع، تمهيدا لاجتياح بري لرفح في تحدي لتحذيرات دولية من خطورة ذلك على نحو 1,400,000 نازح. كما أقيمت في هذا المكان 5 مستشفيات ميدانية بالإضافة إلى المشافي الثابتة العاملة في المنطقة وفق زعمها، علما أن معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة بسبب استهدافها المتعمد منذ بداية الحرب قبل أكثر من 6 أشهر. أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البناز عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على زيارة قطاع غزة نتيجة رفض إسرائيل لها. وأكدت المسؤولة الأممية على حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع امتثالا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة، فضلا عن ضرورة وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وأعربت المقررة الأممية عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها. وأعربت البناز عن قلقها البالغ نتيجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولي باعتباره القوة القائمة بالاحتلال. لبى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الاثنين دعوة من نظيره التونسي قيس سعيد لزيارة تونس للمشاركة في اجتماع تشاوري مغاربي يحضره رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. الرئاسة الجزائرية قالت إن رئيس تبون وصل العاصمة تونس للمشاركة في اللقاء التشاوري الأول لقادة الدول الشقيقة تونس وليبيا، وأضافت أن الدعوة للقاء كانت من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي استقبل تبون في مطار قرطاج الدولي. ويوم السبت الماضي أعلنت الرئاسة التونسية في بيان تنظيم أول قمة تشاورية في تونس يوم الاثنين بين رئيسي تونس والجزائر ورئيس مجلس الرئاسة الليبي دون تفاصيل عن جدول أعمال الاجتماع، إلا أنه وعلى هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي انعقدت في الجزائر في أذار مارس الماضي، اتفق الرئيسان التونسي والجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي على عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل 3 أشهر على أن يعقد الأول في تونس. وتعد الجزائر وتونس وليبيا إضافة إلى موريتانيا والمغرب أعضاء في اتحاد المغرب العربي الذي تأسس في العام 89 شباط فيفريي، لكن في ظل خلافات بين بعض دوله يواجه الاتحاد منذ تأسيسه عقبات أمام تفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، ولم تعقد أي قمة على مستوى قادة الاتحاد منذ قمة 1994 التي انعقدت في تونس. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين بصحبة وفد وزاري رفيع في زيارة هي الأولى له كرئيس للجمهورية بعدما زار بغداد للمرة الأخيرة منذ 13 عاما وكان حينها رئيسا للوزراء. وكان في استقبال أردوغان في مطار بغداد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الذي يلتقي الرئيس التركي أيضا. والتقى أردوغان بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في العاصمة العراقية بغداد. وشدد الرئيس التركي خلال لقائه نظيره العراقي على ضرورة العمل المشترك للدول الإسلامية لوقف الحرب على غزة والتأكيد على الجهود المتواصلة لوقف الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين. وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة في ظل الحاجة لبحث العديد من الملفات المشتركة التي تتطلب إيجاد حلول، وخصوصا ملفات المياه وتصدير النفط من إقليم كردستان وطريق التنمية المزمع إنشاؤه ليربط منطقة الخليج بتركيا عبر الأراضي العراقية، وأيضا التعاون الاقتصادي والمصرفي وملف الأمن المشترك. وتزينت شوارع بغداد وتم تعليق لافتات ترحيب بالرئيس التركي، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية مع ملفات ثنائية واستراتيجية، فيما تؤكد الحكومة أن ملفات المياه والتعاون الاقتصادي وخاصة طريق التنمية ستكون أبرز ما سيتم النقاش حوله، فيما يرى خبراء أن الزيارة ستدعم رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع وعقد شراكات استراتيجية من خلال التعاون مع دول الجوار، وكذلك تصفير الأزمات عبر حل الملفات العالقة. وفي حين تدعو الحكومة العراقية لتقاسم أفضل للمياه، تبدي تركيا دائما امتعاضها تجاه إدارة الموارد المائية من قبل السلطات وكذلك قطاع الزراعة والري في العراق، ويختلف البلدان كذلك بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان والتي كانت تمر عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، وتوقفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشاكل فنية. من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال هذه الزيارة، مضيفا هدفنا تطوير العلاقات مع العراق بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة. من الجانب العراقي قال محمد شياع السوداني رئيس الحكومة في تصريحات قبيل الزيارة إن العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضا أمامهما مشاكل مثل المياه والأمن، وسيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة على جدول أعمال الزيارة. ويوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة العراق على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين العراق وتركيا، ويقوم أردوغان أيضا بزيارة مدينة أربيل في إقليم كردستان شمال البلاد بصحبة الوفد المرافق له، وتم تزيين شوارع أربيل المرحبة بزيارة أردوغان، وتم تعليق الأعلام التركية وإضاءة قلعة أربيل بالعراق بالعلم التركي. عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين اجتماعا في لوكسمبورغ بحثوا خلاله تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا وأيضا توسيع نطاق العقوبات على إيران. وقبل انعقاد الاجتماع قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة الحبيب إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران بسبب هجومها على إسرائيل في الآونة الأخيرة يجب أن تشمل الحرس الثوري الإيراني. وأضافت الوزيرة البلجيكية للصحفيين أن دول التكتل الأوروبي لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي بأكمله إرهابية، وتابعت تقول سنناقش الأمر معا. وفي الموضوع الفلسطيني قالت وزيرة خارجية بلجيكا أعتقد أن علينا أن نوسع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية المحتلة، يجب أن نتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير. وقالت الوزيرة إن العقوبات على المستوطنين العنيفين لا تكفي، وعلينا فرضها على الذين يسلحونهم أيضا ويدافعون عنهم. وأكدت وزيرة الخارجية البلجيكية أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة حاسمة نحو حل الدولتين، وقالت نحن مستعدون للترحيب بأي مبادرة بشأن ذلك. وقالت قبيل انعقاد الاجتماع الأوروبي إنه لا تكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة فيما القتل مستمر، معتبرة أن الوقت حان ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام وننتظر مؤتمرا تحضيريا لذلك. وشددت وزيرة خارجية بلجيكا على ضرورة ألا ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها، مشيرة إلى أنه يجب ألا نسمح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في الوضع في غزة. ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعات لوكسمبورغ أيضا إلى جانب العقوبات على إيران تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا فضلا عن الحرب في السودان والأزمة في الشرق الأوسط. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يطبق بالفعل برامج عقوبات متعددة على إيران بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الإنسان وتزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكن الزعماء الأوروبيين كانوا اتفقوا الأسبوع الماضي على فرض المزيد من العقوبات على طهران على إثر قصفها الصاروخي لإسرائيل الثالث عشر من هذا الشهر، فيما دعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط، فضلا عن الحرس الثوري الإيراني. ونبقى الآن في تقرير مع اليوم العالمي للأرض رجي خوري.
احتفت الأمم المتحدة باليوم العالمي للأرض، والذي يعتبر مناسبة سنوية تحتفل بها في جميع أنحاء العالم في 22 من شهر نيسان أفريل من كل عام. يحتفل بهذا اليوم لدعم حماية البيئة وتوعية المجتمعات بقضاياها البيئية. وبدأت فعاليات يوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وأصبح الآن حدثا عالميا ينظمه شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدا. تصاحب الاحتفالات اليومية دعوة عاجلة للعمل، حيث تظهر الظروف الحالية تأثيرات سلبية على البيئة مع زيادة معدلات التلوث والتغير المناخي وحوادث الطبيعة كالحرائق والفيضانات وأزمة التلوث البلاستيك في المحيطات. الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يعزز التنمية المستدامة ويحمي البيئة، وتؤكد على وجوب تبني أنماط حياة وإنتاج مستدامة والعمل على الحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة. وتطالب الأمم المتحدة بتعزيز التضامن مع الطبيعة ودعم الشعوب المتضررة من تغير المناخ والتلوث، مع التركيز على تحقيق العدالة المناخية ودعم الجهود العلمية لحماية البيئة والتنمية المستدامة. وأوضحت الأمم المتحدة أنه يتم الاحتفال بهذه المناسبة السنوية للأرض ضمن عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي، إن النظم البيئية تدعم كل أشكال الحياة على الأرض، وكلما كانت نظم البيئية أكثر صحة كان الكوكب ومن عليه أكثر صحة، وستساعد استعادة أنظمة البيئية المتضررة في القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ ومنع الانقراض الجماعي. وشددت على أنه بمناسبة اليوم الدولي للأرض هناك حاجة إلى التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يعمل لصالح الأشخاص والكوكب، وهو ما يتطلب تعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض، وهناك خيارات متعددة ومجدية وفعالة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وهي متاحة الآن وفقا لتقرير الأمم المتحدة الأخير. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستعادة الانسجام مع الطبيعة وتبني أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والحماية من الضرر وخلق فرص عمل والتقليل من الفقر والدفع قدما بعجلة التنمية المستدامة.
بعد عقد من النمو الاقتصادي البطيء والضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدينار الجزائري، سجل صندوق النقد الدولي نقطة إيجابية لصالح الجزائر وصنفها كثالث أهم اقتصاد إفريقي برسم العام 2024، مشيرا الصندوق إلى أن نيجيريا ستفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا هذا العام. وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فمن شأن النمو الأسرع للناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا ومصر والجزائر أن يبقي نيجيريا في المركز الرابع على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا ومصر ضمن أهم الاقتصاديات قاريا. وقدر الناتج الداخلي الخام الجزائري في عام 2024 بنحو 266 مليار و780 مليون دولار. وأدت تحديات مؤشرات الاقتصاد الكلي المستمرة في القارة الإفريقية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن التوقعات مستقرة وفقا لصندوق النقد الدولي. وتتوقع المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أن تكون جنوب إفريقيا التي يقدر ناتجها المحلي ب 373 مليار دولار، ومصر مع 348 مليار دولار، والجزائر مع حوالي 267 مليار دولار، ونيجيريا مع حوالي 253 مليار دولار الاقتصادات الأربعة الرئيسية في إفريقيا حتى العام 2030. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، فإن جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تصنيفا في إفريقيا ستصبح أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 373 مليار دولار، وهو المركز الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحتفظ به جنوب أفريقيا حتى العام 27. بالمقابل فإن الجزائر ترتقي للمرتبة الثالثة كثالث أهم اقتصاد قاريا، حيث تشير المؤشرات الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى توقع نسبة نمو بنحو 3.8% هذا العام. في المقابل قدر صندوق النقد الدولي في تقديرات مؤقتة الناتج الداخلي الخام بالسعر الجاري بحوالي 267 مليار دولار للجزائر، بينما قدر الناتج حسب الفرد ب 5720 دولارا. وبهذا التقرير الاقتصادي عن الجزائر نصل إلى ختام نشرة الأنباء. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو أوريون à Annemasse, Lausanne et Genève 92.7 FM.
بشوقك بصورتك تجيني بهمستك بشوقك بصورتك تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك تجيني بهمستك بشوقك بصورتك تجيني بهمستك يا ريتني اشوفك يا حبيبي يا ريتني اشوفك بستنى الفرحة وبستنى وبغني وأنا بحلم بلوها بستنى الفرحة وبستنى وبغني وأنا بحلم بلوها الله على لوال حبيب بعد الغياب علوته بتخلي الهوى يرجع شباب الله الله تعال نخلي القلب حقيقة تعال تعال نخفي لا بكرة يفنقنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكرة يفرقنا احنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتي
اسهروا وينوروا ليالي دوب فينا ربنا يوعدنا ويسعدنا ولا تخلص أبدا مواعيدنا تعال نخلي الحلم حقيقة تعال 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 نعود كل دقيقة تعال 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 نخلي الحلم حقيقة تعال 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 نعود كل دقيقة تعال تعال خوفي لا بكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لا بكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي
يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا